Le journal de la culture, Matteo Caranta.
Bonjour Matteo.
Bonjour.
Tous les jours dans votre journal, les temps forts de l'actualité culturelle et une sélection de rendez-vous de l'été au menu aujourd'hui. Des nabis, des cahiers de la danse et des incertitudes dans les hautes sphères de la culture.
Bastille, la plus grande salle lyrique d'Europe qui brille par les chiffres de sa fréquentation, a annoncé l'ouverture d'une nouvelle salle de 800 places pour 2023. L'institution a fêté ses 30 ans samedi alors qu'on attend toujours que son prochain directeur soit nommé. Et cette latence n'est pas une exception. Depuis vendredi, le Centre National du Cinéma, institution cruciale de cette industrie, se retrouve pour la première fois de son histoire sans capitaine à la barre. Il manque aussi une ou un surintendant à la Villa Medici depuis un an. Vacances également au Palais de Tokyo, le plus grand centre d'art d'art contemporain d'Europe vacille dans sa programmation depuis que Jean de Loisy en est parti pour prendre la tête de l'école des Beaux-Arts à Paris. Au château de Versailles, même histoire, Catherine Pégard atteindra la limite d'âge légale au mois d'août et rien n'est pour l'heure officiellement avancé, même inertie au Centre National du Livre où Vincent Monadet n'a pas non plus été renouvelé dans ses fonctions et assure son propre intérim. Une situation inédite qui met en cause les modalités de sélection de ses patrons de la culture, aujourd'hui encore soumis à la discrétion de l'Élysée.
Autre feuilleton de l'été, Matteo, feuilleton littéraire celui-ci, l'identité mystère d'un livre qui devrait être tiré à plus de 250 000 exemplaires.
Oui, un tirage hors norme et un nom de code, Versailles. Un ouvrage sous X tiré à 250 000 exemplaires, de quoi inonder les librairies et mettre la pagaille dans la rentrée littéraire de septembre. L'insistante rumeur produit son lot de spéculations, raconte le M Magazine. L'ouvrage sous X pourrait être un livre de révélation de Brigitte Macron ou un roman de Michel Houellebecq sur le président, mais nous pourrions nous aussi spéculer à notre tour. La biographie amoureuse du pape François ou la révélation de l'identité mexicaine de Donald Trump, qui sait? Alors que certains éditeurs évaluent déjà la possibilité de décaler certaines de leurs sorties pour éviter l'embuscade, reste à savoir si la rumeur, comme toute rumeur, est bien fondée.
Peinture maintenant avec cette incroyable donation faite au musée d'Orsay.
On chante, chante à pleine voix, donne, donne au monde, chante, chante. Oh, donne, oh, donne, oh, donne, autour de toi.
Sous les applaudissements et sans mystère, 106 peintures, dessins et sculptures ont été donnés la semaine dernière au musée d'Orsay par Marlene Hayes, la collectionneuse texane qui avait déjà fait don au musée de 187 œuvres d'art en 2016, cède cette fois-ci des œuvres majoritairement nabis, cette avant-garde post-impressionniste qui commence à questionner la figuration à la fin du 19e siècle. Un ensemble dans lequel on peut aussi compter une femme au pain, très impressionniste, de Robert Delaunay, une jeune femme à la rose de Modigliani, une femme en jaune de Matisse et la jeune fille au chien du nabis très japonard, Pierre Bonnard. De quoi ravir les visiteurs et l'État qui augmente sa collection publique nationale pour trois fois rien.
Comme tous les jours, Matteo, vous nous emmenez maintenant sur la route des festivals avec en ce début de semaine une halte à Vaison qui danse.
Le rock n'est pas qu'une affaire d'hommes. C'est ce que nous rappelle My Lady's Rock de Jean-Claude Galota, présenté mercredi à Vaison-la-Romaine. La 23e édition du festival, en péril il y a 2 ans, parie cette année sur des grands noms de la danse et du répertoire. Après un Don Quichotte dansé par le Ballet de Nice, c'est le Sacre du Printemps qui sera présenté ce samedi par Emmanuel Gatt. Pierre-François Euclin, directeur du festival, revient sur cette œuvre cruciale de la danse contemporaine.
Je pense que c'est une des partitions les plus chorégraphiés, qui a attiré, fasciné, presque aimanté beaucoup de chorégraphes. On a en mémoire le Sacre de Pina, j'en ai vu d'autres, celui de Maryse Delente. La musique, le rythme, la puissance de cette pièce, ce qu'elle dégage, ce qu'elle exprime, fascine évidemment les chorégraphes. la proposition d'Emmanuel Gatt est assez géniale. C'est un sacre autour de la salsa. Ça se passe sur un dance floor, dans une boîte de nuit, on peut dire ça. Et le contraste est absolument incroyable et saisissant. C'est totalement inattendu, quoi. On n'attend pas ça du Sacre du Printemps, mais la musique, cette œuvre, le permet.
Et pour clore votre journal de la culture, Matteo Caranta, et avant que nous donnions la parole à Christine Le Cerf, qui présentera tout à l'heure une grande traversée sur Céline, vous nous parlez de la publication des cahiers de prison de Louis-Ferdinand Céline.
Oui, l'intégrale des cahiers tenus à Copenhague de février à novembre 1946 paraît chez Gallimard. L'écrivain, considéré comme un génie de la littérature, était aussi un collaborateur convaincu des nazis et un fidèle de la dernière heure du régime de Vichy. En 1945, il se fait arrêter à Copenhague, et dans ses cahiers, il écrit, réside les ébauches de ses romans à venir autant que le ressassement de ses délires paranoïaques. Des publications qui trouveront certainement leur écho dès aujourd'hui à 9h sur France Culture dans le premier épisode de La Grande Traversée.
Mais on va en parler maintenant. Merci Matteo Caranta.